Bienvenue à toutes et à tous autour de la grande table d'été qui achève aujourd'hui son petit tour des festivals de juillet avec une escale à Marseille. Nous sommes en direct et en public du MUCEM où se déroule une grande partie des événements du FID. C'est la 27e édition de ce festival de cinéma dont il va être question aujourd'hui. À 13h30 environ, ce sera l'heure de la session musicale. Aujourd'hui, c'est Noémie Westfeld et Thomas Savy qui seront là pour nous interpréter un titre en direct sur la terrasse. Et puis nous accueillerons Patrick Chia, réalisateur d'origine austro-libanais, installé en France depuis des années, qui signe un très beau film sur l'exil, Brothers of the Night. Mais tout de suite, on tente de cerner le projet de ce festival avec son directeur, Jean-Pierre Rem, et autour de lui, quatre réalisateurs dont les quatre films sont montrés pour la première fois et en compétition. César Vessier, votre film s'appelle Un film événement, en un seul mot. Alors en deux mots, c'est un film sur un groupe de jeunes qui décident de s'isoler du monde en entrant en action, une action à la fois politique et artistique. Seop Kim Bonisseni, votre film s'appelle Occupy the Pool, c'est filmé en Suisse. C'est aussi un groupe de jeunes qui s'ennuie dans un espace-temps étrange jusqu'à avoir un vrai projet, envahir la piscine d'une maison voisine. Et Julie Chaffort et Christophe Bisson, vos deux films, respectivement La Barque Silencieuse et Silencio, ont en commun d'être des films tableaux, des suites de séquences portraits. Pour vous, Julie Chaffort, ce sont les habitants d'un village que vous avez mis en situation, dansant, chantant et d'autres choses encore. Pour vous, Christophe Bisson, ce sont des sans-abri dans un palais délabré à Porto. Alors ce sont des films très différents, tous les quatre, qui entretiennent tous au réel un rapport problématique, mais ça c'est un peu une banalité de le dire dans le cinéma en général. Jean-Pierre Rem, qu'est-ce que ça veut dire FID aujourd'hui? Avant c'était un sigle, ça s'appelait Festival International du Documentaire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire FID?
FID, ça veut dire toujours Festival de Cinéma, mais dans l'idée que le cinéma est multiple, ne s'embarrasse plus de genre, ne se cantonne plus à des définitions, à des durées, mais accueille ce que la pratique cinématographique d'aujourd'hui a de plus significatif, vivant, déroutant, intelligent, joyeux, rigoureux. Voilà, une des images du monde dans la complexité dont on vient d'apprendre encore une fois aux nouvelles. Disons la difficulté qui nous met devant, je dois dire, d'enchaîner avec tout ce qu'on vient d'entendre avant, c'est pour moi un peu douloureux. Et c'est tout ce qu'on a entendu est, comment dirais-je, tellement frappé par un désarroi, comment dirais-je, criminel, que les images que le festival propose par rapport à ça, j'aimerais moi souligner leur modestie. Mais qui pour autant est une modestie habitée de la plus grande responsabilité, du plus grand respect de ce dont ils décident les uns et les autres et chacun à leur manière de prendre en charge. Donc le festival, c'est pas un endroit où on expliquerait aux gens ce qu'il faut penser, ce qu'il faut voir, ce que c'est que le cinéma. Mais au contraire, venir partager avec les réalisateurs des aventures dont aucun cadre n'est fixé par avance. Je pense que ça, c'est un des grands projets, je crois, du FID, c'est de dire qu'on est, disons, réunis dans une certaine hébétude et que cette hébétude n'est pas le signe d'une ignorance, comment dirais-je, aveugle, mais l'invitation à avancer à tâtons dans les salles obscures, mais aussi dans l'obscurité que le monde diffuse, j'ai envie de dire, de façon dangereuse, inquiétante, toujours davantage. Voilà, donc...
Réfléchissons ensemble, nous parlons et nous tentons de créer quelque chose sur les cendres du XXe siècle. Des idées, des formes nouvelles, des actes qui doivent pulvériser notre vie, oui. Et nous nous prenons les pieds dans la réalité. Nous devons prendre une décision, oui. Nous sommes face à nos contradictions, oui. Avec la peur de nous montrer nus, dans tous les sens du terme, classique. Et en même temps, nous ne résistons pas à l'idée de ne pas le faire. L'idée de l'action sous toutes ses formes, à plusieurs, puisque la société reste nécessaire. Yeah. Nous, jeunes gens modernes, nous faisons cela au nom de quelque chose. refusé tout. Oui, la vie aujourd'hui, grave comme un cercueil et démente. Ouais. Au nom de la certitude d'un abîme, complètement fou. Une catastrophe dont nous voulons sortir. Comme on sort d'une maladie qui peut nous détruire. Grave. Sortir de l'emprise de l'argent. Classique. Même au nom d'une vengeance personnelle, intime, irréversible. Ouais, ouais.
César Vissier, c'est un extrait de votre film, un film événement qu'on entend là. C'est un moment un peu charnière dans le film qui est en fait le manifeste de ce groupe de jeunes qui décident de s'autonomiser. En fait, l'histoire, donc s'il y a une histoire, parce que c'est pas vraiment un film narratif, mais ils enlèvent un présentateur de la météo, partent avec lui dans un lieu totalement isolé, et donc c'est un otage. Quand vous entendez, vous, aujourd'hui, ce discours-là, dans les circonstances dont parlait Jean-Pierre Rhem tout à l'heure, qu'est-ce qu'il vous dit, ce texte? Est-ce qu'il résonne différemment de peut-être le moment où vous l'aviez écrit, César Vissier?
Non, il résonne il résonne un peu d'une manière un peu plus intense, évidemment. Et puis, c'est fascinant comme vous. C'était intéressant de voir comme la différence qu'il y a par rapport au moment où on a commencé à réfléchir sur ce film. La manière dont on s'est fait rattraper par le réel, même, et puis là, on s'est fait doubler carrément. Mais voilà, non, ça me raconte que ce questionnement sur les conditions aujourd'hui de se positionner reste très 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 compliqué, de plus en plus compliqué. Et voilà, et c'est vrai que la vision tous les jours des choses qui se passent, alimente la réflexion qu'on a eue nous il y a 4 ans maintenant, à l'origine de ce projet, de savoir, d'étudier un peu et de montrer d'une manière poétique les contours de l'engagement possible et les options qui sont disponibles aujourd'hui aux gens de 25 ans, mais aussi aux gens de 40 ans et 60 ans face à ce qui se passe. Donc, ça me fait quelque chose, ouais, c'est sûr, d'entendre ces paroles encore aujourd'hui,
Jean-Pierre Rhem, on vous a coupé, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, poursuivons. Non, je voulais dire que ne pas se laisser intimider non plus par les fracas du monde. C'est ce dont témoignent les films des réalisateurs qui sont présents à cette table, mais aussi, je vous rappelle qu'on montre 200 films, mais aussi tous les films qui sont présentés dans ce cadre-là. Ce qui veut dire que il y a une énergie, une production incroyable, un courage que je tiens personnellement à saluer, y compris le courage de l'hésitation, y compris le courage du questionnement, y compris le courage de fabriquer des films sous forme de puzzle, sous forme de barque silencieuse. Sous forme de silence, sous forme de piscine à occuper, ça c'est très très important de refuser l'intimidation, parce que c'est cela même qui est souhaité par ailleurs.
Julie Chaffor, vous, en parlant justement de cette résistance aussi, peut-être qu'il y a une résistance au système du cinéma en général, de la manière dont il se fait traditionnellement, c'est quelque chose dont vous allez tous parler, je pense, parce que vous vous y êtes confronté à ce système-là. Vous avez fait donc votre film La Barque Silencieuse en résidence, et je sais que c'est une forme pour créer un film qui vous convient particulièrement. Qu'est-ce que ça vous permet de faire?
Déjà, je suis artiste, pour moi, dès le départ, plus que cinéaste. En fait, une résidence me permet d'être dans un territoire et de l'investir et de rencontrer en fait de nouvelles personnalités et de m'inspirer de ces personnes-là pour créer, pour écrire et pour aussi me mettre à chaque fois en danger, c'est-à-dire de ne pas travailler toujours avec les mêmes personnes et tout d'un coup de demander à des personnes qui ne sont pas des acteurs de les mettre en scène et de leur demander d'aller au bout d'eux-mêmes quelque part et de les étonner de ce qu'ils sont et de m'étonner moi-même de ce que nous sommes en train de faire. C'est le but de mon travail.
Ça vous contraint aussi à choisir un lieu que du coup vous ne choisissez pas vraiment?
Oui, en fait, toute l'interrogation de mon travail se place là, d'être à chaque fois dans quelque... Je balise assez les choses, mais en même temps, je reste dans un certain danger, dans un certain risque. Et quand on parlait d'économie de cinéma, j'ai réalisé ce film avec une bourse de production d'une association qui accueille des artistes, donc c'est-à-dire avec, je vais le dire, le montant, ça m'a coûté 3 600 euros. Tout le monde a été bénévole. Moi, j'ai travaillé gratuitement, mais c'est en même temps toutes les personnes qui s'investissent le font parce que ils y trouvent une raison de le faire et eux-mêmes. Partent dans le projet, dans cette, parce que j'arrive à les embarquer là-dedans, et en même temps se retrouvent confrontés à des situations inexplicables pour eux et se réjouissent de ça en fait et sont étonnés. Et c'est ce qui fait, je pense, c'est ce qui a fait que le film a pu tenir comme ça, enfin, et cette atmosphère-là aussi forte.
Christophe Bisson, vous aussi, le lieu, c'est quelque chose de très important puisque votre film se passe dans cette sorte de palais délabré en ruine. Comment vous avez choisi ce lieu-là et justement aussi peut-être c'est lié dans quelle économie vous avez travaillé ?
Eh bien, j'ai choisi ce lieu sans doute pour accentuer la position hors du monde de ces personnes en situation de vie dans la rue. C'est des gens qui sont, on peut dire, une forme de vie nue. Et donc c'était important, je pense, de bien le marquer à l'image. Donc des grands espaces vides et eux, présence flottante, vacillant, au bord du rien.
C'est Hopkin Bonsignani, il y a des résonances dans votre film avec celui de César Vessier, même si peut-être d'un côté avec César Vessier on essaye de produire quelque chose et à l'inverse votre film creuse vraiment jusqu'à l'abstraction, une sorte d'absence, c'est très impressionnant de ce point de vue. C'est aussi donc un groupe de jeunes, je ne dirais pas qu'ils sont en quête de quoi que ce soit, mais qui sont-ils? Comment vous les avez filmés? Comment vous les avez rencontrés?
À l'époque, j'étais en train de faire plusieurs mises en scène, en fait, chorégraphie, spectacle, théâtre. Et je travaillais avec des jeunes adultes et j'ai un peu regardé autour. Et j'ai beaucoup observé, beaucoup fait d'entretiens avec eux. Et puis je me suis rendu compte que c'était un groupe qui lui-même était en réseau avec d'autres groupes en Europe. Il y a une solidarité générationnelle qui est très très forte en fait chez eux. Et voilà.
On en écoute un petit extrait.
Ça fait chier. Hein.
Ouais.
Ça va toi?
Ouais, bah ça va, j'ai encore des trucs. Et puis j'ai rien eu quoi.
Ouais, non, c'est clair. Heureusement que c'était pas le sécu qui a pris les filles qui après, bon, j'en sais rien quoi.
Ça fait chier que t'aies dû en arriver là, mais bon.
Ouais, mais bon, voilà. Je serai toujours là pour toi, chérie. Moi, j'ai chopé plein de trucs aussi.
Ah, faut voir.
Attends.
On l'entend dans ce film, c'est vraiment le truc, c'était un mot que je trouvais intéressant parce que on sait jamais vraiment de quoi il parle, rien n'est vraiment déterminé et notamment il y a quelque chose que je trouve vraiment passionnant, c'est tous ces petits objets qu'il fabrique, il y a plusieurs fois ça qui revient. Donc il y a une petite, on comprend qu'il y a un petit truc pour faire des petits trucs, pour faire des tatouages, il y a une sorte de cigarette électronique très étrange fabriquée avec du bleu, alors on sait pas bien à quoi ça sert. Est-ce que c'est une métaphore de la manière dont vous avez travaillé?
En fait, il n'y a pas tellement de métaphores. Le film s'est construit autour de l'heure réelle. Et en fait, il y a eu deux tournages. Le premier était un échec. Parce que, voilà, c'était la première version du scénario était une fiction plutôt classique. Et à leur contact, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnerait pas et qu'il fallait que je procède différemment. Donc, j'ai aussi écrit à partir d'eux. Et à l'époque, ils étaient effectivement très, très intéressé par tous ces petits objets, ces gadgets made in China, ce genre de choses-là, et notamment les cigarettes électroniques. Et donc voilà, et après, il y a une des références de ce film qui est l'argent de Bresson. Et voilà, c'est ce qui permet aussi de créer du lien entre eux.
Le titre de ce point de vue-là, c'est un peu une provocation, puisque Occupy the Pool fait référence à des mouvements politiques qui ont fleuri après la crise financière en premier lieu, donc à New York, et qui d'ailleurs sont aussi, enfin, le mouvement Nuit Debout, par exemple, très récent. Bon, j'imagine que vous aviez déjà tourné, mais est en quelque sorte une émanation là de ça. Est-ce que pour vous, c'est une forme de constat d'échec de quelque chose ?
Non, pas du tout. Je pense que pour ces générations, pour ces plus jeunes, il y a un refus peut-être du leg, d'une esthétique de la contestation qui daterait d'avant, de la fin des années 60 par exemple. Quand on voit que dans Il y a eu une manifestation en décembre, en fait, où voilà, une manifestation qui ne s'est pas forcément très bien passée, ça dépend de quel point on se situe. Et il y a eu beaucoup de critiques sur le fait qu'il n'y avait pas de slogan, qu'il y avait des cœurs tagués, des smileys, ce genre de choses-là. On m'a aussi dit qu'en France, il y avait des manifestations où il y avait des banderoles avec des punchlines de Booba. Je pense qu'il faut qu'on arrive à l'accepter. C'est une génération qui n'a pas connu la grille idéologique que les plus vieilles ont connue et qui donc se cherche et se réinvente aussi.
César Vessier, je vous vois acquiescer.
Oui, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit parce que c'est vrai que je serais tenté de dire que les idées, on les a, mais c'est la forme de l'application qui reste compliquée à trouver. Et effectivement, on sent bien à travers les tentatives artistiques que c'est un problème de la forme de l'action reste, elle, vraiment à trouver. Les idées, j'ai l'impression qu'on les évoque depuis des siècles. Et ça montre aussi à quel point le poids du passé, des références et effectivement des formes, de la théorie, de la contestation, handicapent en fait l'action. Et qu'à un moment donné, il y a vraiment, et nous c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi dans UFE, c'est-à-dire que comment arriver à se positionner, donc se positionner, c'est se positionner intellectuellement, mais c'est aussi se positionner géographiquement et physiquement, et c'est le lien qu'on a fait avec la danse, c'est-à-dire comment aujourd'hui positionner notre corps face à la violence physique, mais face à la violence intellectuelle, la violence financière, etc. Et je pense que c'est ces formes-là qui restent à inventer, et c'est sûr que aujourd'hui, les formes de manifestation, j'ai pas de solution concrète, mais la forme de la manifestation, slogan, les pancartes et les bâches, on voit un peu à travers à force, parce que voilà, taguer un distributeur de billets, ça a une action, mais c'est plus une surprise esthétique, et effectivement, ça renvoie quelque chose de déjà vu et qui finalement est presque facile, pas dans l'action, mais au regard de gens et des gens qui ont le pouvoir, c'est quelque chose qui les surprend pas. Et je pense que le vrai travail à faire aujourd'hui, c'est trouver la forme et la façon de se comporter. Et effectivement, on aperçoit à travers Nuit Debout, moi c'est quelque chose qui m'a frappé, un espèce de, je vais reprendre un terme un peu, pas une fracture sociale, mais une fracture esthétique, entre d'un côté une élite artistique qui a eu beaucoup de mal à rejoindre une autre forme d'esthétique, je dirais plus cracheur de feu, pour être, ça paraît un peu méchant, mais c'est juste pour montrer qu'il y a eu du mal, que ces gens-là ont eu du mal à se rapprocher pour ensemble proposer quelque chose. Et effectivement qu'il faut... mais au moins, les gens de la Nuit Debout, ils ont mis les mains dans le cambouis, ils ont été sur le terrain, etc. Et je trouve qu'il faut qu'il y ait un rapprochement entre des gens qui inventent des formes un peu tout seuls dans leur studio, financés par le ministère de la Culture, et c'est très très bien, et les gens qui sont dans la rue d'une autre manière. Et je trouve que ce lien-là n'existe pas, et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi ce lien qu'il faut traiter. Voilà.
Il y a quelque chose de paradoxal dans ce que vous dites par rapport au film César Vessier, parce que les formes politiques et les références artistiques qui sont présentes dans le film, que le groupe utilise en fait pour créer quelque chose, sont très années 60 justement. Il y a le Living Theater, il y a Debord beaucoup, le Larzac, il y a cette espèce d'horizon un peu de la fuite vers le centre, la liberté sexuelle. Vous-même, vous référencez beaucoup le film du côté de Godard, de Debord, donc aussi les années 60. Est-ce que ça veut dire que qu'on ne peut pas inventer une nouvelle forme artistique pour dire la révolte? En fait, à part les éléments un peu technologiques qu'utilise le groupe, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une forme de constat d'échec dans votre film, comme si on était un peu lesté par le poids de 68, de cette révolution-là, compris artistiquement.
Il y a cette idée de montrer le poids des valises de pensée qui existent, qui sont très importantes, évidemment. Donc il y avait un élan qui voulait dire, il sait qu'il y a des choses ont été faites, et c'est important de redire qu'elles ont été faites, mais il ne faut pas que ces références-là inhibent l'action et l'empêchent d'exister autrement. Et effectivement, les jeunes gens que je montre sont entourés un peu de ce poids comme ça de l'histoire et essayent de faire avec aussi. Et ça montre aussi la difficulté de s'en extraire pour agir. Mais voilà, c'est aussi une opposition entre le fantasme, en tout cas la théorie politique, la pensée, et l'écart qu'il y a entre ces pensées, cette pensée, qu'elle soit historique ou contemporaine, et le passage à l'acte. Et c'est cet endroit-là qui est compliqué, aujourd'hui en tout cas, je trouve.
Faire événement avec un film, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un film, je pose vraiment la question à tous les quatre et même les cinq, parce que c'est une question aussi de programmation, faire événement avec un film, est-ce que ça veut dire qu'un film peut être une performance? Julie Chaffort, vous acquiescez la première, alors je vous donne la parole.
Oui, enfin, pour moi, c'est à chaque fois, enfin, en tout cas, mon travail, c'est de la performance en soi. Chaque scène est une performance. Donc, et à chaque fois, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est à chaque fois une prise de risque et on sait pas vraiment où on va avec un film. On a des idées et on les exploite, on cherche. Et, ça serait tellement dommage de savoir exactement ce que va faire un film, à quoi ça va aboutir. Donc, oui.
Mais est-ce que c'est pas différent de filmer une performance et de faire performance ? Une performance, c'est quelque chose de très, de fondamentalement très fragile, alors qu'un film, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très fini quand ça nous arrive à nous, spectateurs.
Il y a une...
César Fessier.
Ontologiquement, historiquement, c'est deux choses qui sont antagonistes. La performance fonctionne sur le réel et le cinéma sur quelque chose de, entre guillemets, prémédité, puisqu'on écrit, on cherche de l'argent, etc. Donc cette préméditation... elle est, en termes de sens, complètement opposée à la notion de performance. Par contre, effectivement, je remarque quand même qu'il y a cette idée-là de faire événement, effectivement, avec un acte filmique. Parce que ce que j'entends dans les discours et en discutant ici avec les gens du FID et dans ça, c'est qu'effectivement, il y a une réflexion aussi sur la façon de faire un film, d'aborder la production, de penser d'autres communautés de production avec des gens de l'art contemporain. Nous, on l'a fait avec les gens de la scène du spectacle vivant, avec Nanterre Amandier, avec des gens comme ça qui nous ont accueillis et qui ont supporté financièrement aussi le projet. Et du coup, qui rapproche effectivement en termes de processus créatif quelque chose qui est plus en lien avec, je dirais, le vivant, avec la façon dont on conçoit une performance, etc. Et après, nous, on a réfléchi aussi, on s'est dit, tiens, film événement, ça va être, il n'y aura qu'une copie. Pour donner cette notion d'unicité de l'acte, comme un spectacle de théâtre qui peut pas être copié, enfin il faut être devant pour le voir, ou une peinture. Bon voilà, c'est un peu symbolique, mais il y a cette idée effectivement de l'action aussi par l'acte cinéphilique ou cinématographique ou d'image, en enlevant un peu toutes ces préméditations qui est souvent lourde dans la conception, parce qu'un film coûte cher toujours aujourd'hui, mais qu'on arrive aussi à trouver des solutions pour que ce soit, qu'on retrouve la spontanéité dont on entend parler quand on parle de performance. Voilà.
Jean-Pierre Rem.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord. Je crois pas qu'il y ait aucune spontanéité ou que ce soit. Faudra qu'on m'explique comment une performance serait le fruit d'elle-même, comme ça, de façon incessante. Non, non. Il y a une écriture, qu'elle prenne un an ou cinq secondes. C'est finalement, je dirais, la même éternité de la préméditation. D'une part, et d'autre part, quand on parlait de référence tout à l'heure, je pense qu'il faut être précis. Et je crois que parler par exemple des années 70, c'est beaucoup trop générique. Il y a un événement Godard, par exemple, qui dure encore, non pas parce que Jean-Luc Godard est vivant, mais parce que les films qu'il a fait sont tous très différents les uns des autres. Il y a un événement Bresson qui est beaucoup plus contemporain, je veux dire, que bien des choses qui nous sont soumises, soit du côté de la performance, soit du côté du cinéma. Non, pour moi, effectivement, le titre de César Vessier, c'est une bénédiction, parce qu'en effet, j'attends que les films qui soient proposés soient des événements, mais pas au sens de cette espèce d'attente de fraîcheur qui est finalement l'idéal que revendique le commerce, mais tout au contraire, comme une rencontre, un choc, qui peut être, je le dis fréquemment, la façon dont un oiseau se pose sur une branche et de l'autre côté un tsunami. Je veux dire que le régime de l'événement, c'est le régime de la surprise, c'est le régime de la rencontre. Et ça, il y faut de l'amour, c'est-à-dire il y faut du travail. Et le travail, c'est cette préméditation qui ne veut pas dire... Un calcul, de la maîtrise, qui veut dire la modestie de dresser la table pour que des gens puissent manger de la façon la plus joyeuse et digne. Et ça demande du temps en amont. Et au contraire, j'ai envie de dire, plus fragiles sont les événements, plus délicat, plus ouvragé l'écrin. D'une certaine façon, c'est l'opération exactement que fait Christophe Bisson, en offrant un, en proposant un palais baroque, enfin je sais pas si c'est baroque, mais un palais, disons, démesuré à des êtres qui ont erré pendant un certain temps de leur vie dehors, dans l'abandon, etc. Donc, je crois qu'il faut, justement, je pense que c'est une précipitation à classifier, à dire, voilà, les années 70, ceci, cela, qui nous mène à des impasses, me semble-t-il, qui nous mène à des impasses. Et si c'est la justice, si c'est le sentiment de la justice qui nous guide, alors soyons respectueux des tentatives des uns et des autres et de ce qu'elles impliquent de durer. Moi, je crois que ce qui est important, justement, là, c'est comment des choses sont inscrites dans la durée et proposent au spectateur de la durée. Et pour moi, un événement, ça ne veut pas dire de l'événementiel. Ça n'a rien à voir. Un événement, c'est quelque chose, s'il a lieu, qui ne peut que durer, j'ai envie de dire, infiniment.
Vous venez tous les quatre des arts plastiques et de la danse. On a fait beaucoup aussi des spectacles vivants pour César Vessier. Vous, Christophe Bisson, avant de réaliser des films, vous étiez peintre. Et ça se voit beaucoup dans Silencio, dont certaines séquences fixes, notamment la première, sont vraiment travaillées comme des tableaux avec des effets de clair-obscur. Est-ce que vous considérez-vous que votre travail à la caméra est le prolongement de ce que vous faisiez lorsque vous étiez peintre ?
Oui, certainement, mais c'est aussi une manière de tourner le dos à la peinture et y revenir par des détours, par d'autres biais, et donc une manière de déplacer la peinture sur une autre scène. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de volontarisme picturaliste. C'est intéressant de revenir aux choses parfois par des méandres, des détours, même se perdre. Et là, mon propos prolonge celui de Jean-Pierre dans un rapport à l'immédiateté qui peut être problématique. C'est-à-dire que faire un film, le mien, j'ai passé 3 ans à construire un film pour accueillir la parole des sans-abri et construire un regard sur eux. Mais c'est une manière peut-être justement de retarder la conclusion. Enfin, il y a cette phrase de Flaubert, la bêtise, c'est conclure trop vite. Et peut-être que le cinéma, c'est justement retarder ce moment où on ressaisit les choses, c'est-à-dire introduire de l'errance, de la suspension du sens, attendre. Voilà. Et là, il y a quelque chose peut-être de plus subtil en deçà du langage qui peut émerger dans un plan et qui est du côté d'une présence vive. Voilà.
Comment vous avez travaillé avec eux, Christophe Bisson ? Vous avez travaillé en amont, il y a eu de l'improvisation. Quelles étaient les techniques que vous avez mises en œuvre pour en arriver à ce film ?
L'écoute, c'est d'abord l'écoute. Faire un film avec des sans-abri, c'est d'abord se désarmer soi-même, tourner le dos à ce qu'on pense et puis accueillir et après renvoyer une image, mais qui est pas une image en miroir, justement. C'est renvoyer une image sur une autre scène et peut-être quelque chose de plus indéfini. Les sans-abri, à la fois, souffrent du fait de plus être pris dans les regards, de plus être pris dans la parole, et en même temps sont enfermés dans des catégories stigmatisantes, réductrices. Et donc, peut-être que la tentative que j'ai faite, c'était les libérer de cela, à la fois les faire apparaître dans un regard, mais un regard qui est accueil et en même temps ouverture.
Julie Chaffort, est-ce que ça fait écho à la manière dont vous avez travaillé avec les personnes avec qui vous avez travaillé ? Est-ce que vous les avez beaucoup écoutées ? Comment vous avez préparé les séquences que vous avez filmées avec ces personnes ?
En fait, je prépare très peu. C'est-à-dire que je les rencontre, je leur parle de mon intention, de l'envie de travailler avec eux et dans quelle situation je souhaiterais les mettre. Et ensuite, généralement, je les amène sur le... Enfin, on prépare le tournage, mais généralement, en fait, il n'y a pas de répétition et on filme tout de suite. Et généralement, il y a 2-3 prises, c'est tout. Parce que, en fait, puisque tout tient, c'est-à-dire que tout tient justement par cet étonnement de départ. Donc, si je fais trop de prises, en fait, on perd toute la magie de la scène. Donc, voilà.
Kim Bonissegna, pardon, je vais avoir du mal avec votre nom, c'est Kim Bonissegna. Est-ce que ça fait écho à ce que justement vous avez travaillé, vous qui avez fait donc ce que vous disiez dans un premier temps, un scénario, et puis qu'il avait abandonné pour faire totalement autre chose? Je crois que vous avez beaucoup travaillé l'improvisation avec vos acteurs.
Oui, mais c'est écrit. C'est-à-dire qu'il y a seulement deux scènes improvisées. C'est des cadres dans lesquels je les ai laissés un peu avec des directions très sommaires. La plupart du temps, on me répondait qu'ils ne comprenaient pas, mais ce n'est pas grave, ça s'est quand même fait. Et quant au rapport avec eux, là par contre, c'est un peu particulier, ça vient peut-être de mon approche, puisque j'ai tendance à m'immerger en fait dans mes thématiques de recherche. Et là, j'avoue que j'ai été piégé, puisque depuis 6 ans, en fait, je vis avec eux, c'est-à-dire que ça a glissé, et je suis entouré de gens beaucoup plus jeunes qui sont des amis très proches. Et voilà, ça aide aussi à anticiper, à observer et à les comprendre.
Cette proximité-là, j'imagine, César Vissier, que vous l'avez eue aussi avec les gens que vous filmez, parce que vous avez filmé longtemps, enfin, vous avez beaucoup préparé et beaucoup filmé avec eux. Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce qu'au contraire, ça forge quelque chose ?
Pour moi, ça forge quelque chose. On a vraiment passé pratiquement 3 ans avant le tournage de recherche ensemble dans des périodes de résidence de création, dans des centres chorégraphiques, etc., pour vraiment accumuler de l'expérience. Et à partir de ce groupe de comédiens qui ne se connaissaient pas, créer un groupe qui se connaissait, et ils sont arrivés sur le tournage avec une façon de se comporter ensemble et une esthétique de la relation de groupe, comme ça, que je pense qu'on sent dans le film. Et on a abordé la recherche à travers... vraiment des axes très différents, en travaillant avec des chorégraphes, avec des écrivains, d'une manière très... sur une base comme ça écrite. Il y avait une fable, la fable du film était assez écrite, d'une manière assez scénaristique, mais on est parti de là et on a vraiment fait un travail très empirique, voilà, pour réfléchir à la façon dont le corps existe dans ces relations de groupe qui sont un peu des, voilà, emblématiques d'une, en gros, d'une relation, qui peut faire exemple d'une relation de société aussi, quoi.
C'est un film fleuve qui dure à peu près 2h30. Combien vous aviez de temps de rush, César Vissier?
Je sais plus, mais c'est monstrueux. Vraiment, c'est... On a... Parce qu'en fait, le film contient aussi des choses qui ont été filmées pendant ces 3 ans. Le film contient les archives de sa propre histoire. Et donc, il y a entre ça et vraiment les images issues du tournage à proprement dit, je ne saurais pas dire le minutage, mais c'est, voilà, mais c'était, il y avait cette idée d'accumulation aussi, et de travailler au-delà d'une écriture scénaristique, d'aller accumuler des choses et de réfléchir en regard du travail de montage, de réfléchir à une façon de raconter tout ça autrement. Voilà, mais il y a énormément de matériel qui d'ailleurs, voilà, qui a des formes très différentes, voilà, esthétiquement.
J'imagine que du coup, et puis ça se voit parce que vous avez un goût de ça, le montage était quelque chose de très important. Comment vous l'avez abordé ?
Je l'ai abordé d'une manière très paradoxale, c'est-à-dire comme j'ai eu ce temps-là, et le projet je l'ai en tête depuis vraiment plusieurs années, donc j'ai eu vraiment un vrai temps de réflexion, une précision sur la pensée du film, et en même temps je l'ai monté d'une manière très instinctive aussi, dans une logique où j'ai essayé de me libérer d'énormément de réflexes, et j'étais tout seul pendant 4 mois dans une salle, personne n'est rentré, même les gens qui... voilà. Et même les gens qui, voilà, qui... Et du coup, j'étais dans un truc très empirique, très instinctif, très réfléchi, très libre. Je me suis donné aucune barrière. J'ai assumé de faire des choses qui pouvaient ne pas aller. Voilà, j'avais aucune barrière de rien du tout. J'ai tout essayé. Et à un moment donné, je me suis dit, et le film a eu plusieurs étapes, hein. Il y a une version de 6 heures, de 3 heures, de machin. Et puis récemment, voilà, il a été fini de monter très récemment dans sa version totalement, originale, de cette durée qui a été montrée au feed. Mais voilà, c'est, d'ailleurs, ça aurait pu continuer des années. Il fallait bien qu'à un moment donné,
Vous avez tous plus ou moins pratiqué ce qu'on appelle, alors moi justement je connais pas bien la différence, donc vous allez m'expliquer s'il y en a une, les arts visuels, davantage parfois que le cinéma. Alors qu'est-ce que ce serait la différence entre les arts visuels et le cinéma? Là on a vraiment l'impression que cette différence est extrêmement ténue. Jean-Pierre Rem.
Là aussi c'est des questions de distribution, je crois que c'est des contextes d'une part de production et des contextes de diffusion. Aujourd'hui, il y a des films, et d'ailleurs au FID, c'est ce type d'événement, pour reprendre ce mot, est proposé, puisqu'il y a des films qui sont proposés en salle et sous forme d'accrochage dans l'espace. Je crois que ce qu'il faut dire, disons, pour simplifier les choses, c'est ce qu'on appelle les pratiques contemporaines, c'est-à-dire les pratiques d'aujourd'hui, c'est ce vers quoi n'importe quel artiste, qu'il soit cinéaste, musicien ou utilisant les images, devrait tendre. Moi, je sais que très souvent, on m'a dit « Ah, vous venez de l'art contemporain ». Je lui réponds « J'aimerais plutôt m'y diriger », étant entendu non pas comme un champ délimité, un club restreint avec ses espaces dédiés, mais au contraire en disant « pratique d'aujourd'hui ». Donc, les arts visuels ont certains protocoles de monstration. Il y a des histoires aussi qui ne sont pas les mêmes. Mais je crois qu'il y a beaucoup de temps qui est perdu à essayer de tricoter des drapeaux qui sont absolument plus intéressants à planter ici ou là. Je crois qu'il y a des expériences différentes. Il faut être rigoureux. Il s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. D'ailleurs, pour revenir, pardon, sur cette histoire d'événement, si je puis me permettre. Non, mais je voudrais simplement rappeler que, au fond, cette question était celle des avant-gardes dans les années 1880. Vous savez, quelqu'un comme Félix Fénéon qui pose une bombe défendue théoriquement par Stéphane Mallarmé, qui ensuite tempère et dit « il n'est de bombe qu'un livre ». C'est précisément la question, la question du performatif au sens de la question de l'efficacité. Et je crois que les films qui sont proposés ici et les cinéastes avec lesquels nous nous entretenons à cet instant même, sont des expériences qui proposent de détricoter justement des régimes d'efficacité. Et quand bien même, il ne s'agit pas de renoncer, hein, mais en tous les cas de ne pas être du côté du drapeau, qu'il fût des arts visuels, du cinéma, de la performance. Je crois que moi j'admire, je l'ai déjà dit, mais le courage de toutes ces propositions, parce que ça suppose une grande solitude. Ça a été dit par Julie, des moyens d'une modestie. En réalité, la question, si vous voulez, entre les arts visuels et le cinéma, s'il fallait en faire passer la frontière et la désigner, c'est sur les budgets, où le cinéma est dans des disproportions. C'est pas ce cinéma-là qui est montré ici. Donc c'est aussi signaler qu'il y a des possibilités de cinéma qui sont désinhibantes, où l'argent n'est pas le maître, où l'argent ne dicte pas le langage.
Mais c'est quand même, en effet, ce que vous disiez, Jean-Pierre M, aussi une question de protocole et de manière dont sont montrées les œuvres. C'est-à-dire que montrer un film dans un cinéma, c'est quand même pas exactement la même chose dans ce qu'on projette d'un public que de montrer un film dans un musée d'art contemporain.
Le public qui se construit lui-même, je veux dire, moi je ne projette pas sa réception. Je lui fais des propositions, exactement comme un cuisinier. Je veux dire, un cuisinier va penser au repas qu'il est en train d'élaborer. Il va pas se dire si un tel aime plutôt la chantilly. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, il y a l'histoire végétarien, donc il faut respecter. Non, c'est intéressant, puisque toutes ces dernières années, aujourd'hui, là, il y a une modification dans l'élaboration de la cuisine. Mais hormis ça, j'ai envie de dire, ce à quoi il faut penser, c'est respecter les œuvres qui nous sont proposées, de sorte qu'elles se déploient et rencontrent les publics, parce qu'encore une fois, je ne dirais pas le public, mais c'est les publics, c'est... Et public, même, c'est un mot, si vous voulez, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous.
Christophe Bisson, une dernière question. Je sais que vous avez présenté le film à la prison des Baumettes, ici à Marseille, et que la réaction des spectateurs vous a beaucoup surpris.
Oui, effectivement, oui. Une partie du public a réagi assez rudement, c'est vrai, par rapport... à la forme, une forme assez lente, faite de creux, de vide. Ils m'ont reproché l'absence de commentaires, de discours, avec l'idée, sans doute en arrière-plan, qu'un film doit dire les choses. Mais aussi, enfin, à mon sens, il est intéressant de faire des films justement pour épuiser les discours et encore une fois faire apparaître quelque chose. D'autres prisonniers, au contraire, quelqu'un m'a dit, enfin c'est ça, sans doute la remarque la plus étonnante que j'ai entendue dans ma vie. J'ai souffert pendant 53 minutes dans ton monde. Maintenant, j'aimerais que tu viennes 53 minutes dans le mien pour souffrir à ton tour. Bon, c'est ça, c'était vraiment un grand étonnement. Et j'ai dit, écoutez, on peut envisager la chose.
Un grand merci à vous cinq. Jean-Pierre Rem, vous dirigez le FID ce soir. C'est la clôture du festival. Le palmarès sera dévoilé à 20h, juste à côté d'ici, Villa Méditerranée. César Vessier, votre film s'appelle UFE, un film événement. Seob Kim Boniseni, votre film s'appelle Occupy the Pool. Il sera projeté d'ailleurs à 15h au cinéma Les Variétés, donc juste après l'émission. Julie Chaffort, le vôtre s'appelle La Barque Silencieuse. Et Christophe Bisson, votre film s'appelle Silencio. Dans quelques minutes, nous tirerons le portrait de Patrick Chia. Mais tout de suite, c'est la session musicale programmée par Boris Pinault, comme tous les jours, dans la grande table d'été. Et il s'installe. Noémie Weisfeld est chanteuse. Elle a commencé à constituer son groupe qui s'appelle Blick au cours de stages de musique klezmer. Blick, c'est regard. Un regard tourné notamment vers l'exil, vers un passé musical, mais aussi vers le départ. Leur premier album s'appelait Kalima. C'était un voyage autour de chants de prisonniers russes et de chants yiddish. Elle est là aujourd'hui avec Thomas Savy, qui sera présent sur leur troisième album. Et ils interprètent ici en direct sur le toit du Mucem une version inédite de Zog Maran. C'est à vous.
Thank you. Sock man, wie wirst du sie kriegen? Spalten haben wir sie schon lang behalten. In der Heim tiefe Spalten haben wir sie schon lang.
Noémie Westfeld et Thomas Savy en direct de la terrasse du Mucen. Noémie Westfeld et Blix seront en concert le 12 août au Traversée de Tahitou. Leur dernier album s'appelle Alpha Mile. Il est disponible chez AWZ Records. Toutes les infos seront sur notre site.
France Culture, la grande table d'été, Lucille Como.
Il est 13h, passé de 33 minutes, vous êtes bien sur France Culture et c'est la grande table d'été. Bonjour Patrick Chia.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, votre troisième long métrage Brothers of the Night était projeté ici au FID en séance spéciale. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes hommes entre 16 et 25 ans environ, ils sont bulgares. Ils se prostituent à Vienne dans des bars et des boîtes gays, espérant gagner assez pour rentrer chez eux, retrouver leur famille. Ces jeunes, ils existent, vous les avez suivis pendant des mois. Ça ne donne pas un documentaire car ils jouent et vous les avez mis en scène. On en écoute un petit extrait.
Требуем ушли, что ты знаешь.
И
что?
Я искал.
А ты мне да сад запознай малку тогда. Не,
искал еще пока.
Что бе?
Че не искал с тебе?
Спас бы се на зоин кабин.
Винник с кабин имах.
Верон вели ты мне? Або и све?
Ей бил. Их и сваиш бил с тумит мия.
Бебете?
Их и сваиш бил с тумит мия. Gay Kabine. Und jetzt ich will nichts.
Warum willst du nicht?
Später ich will.
Später?
Ja.
Vous avez rencontré ces jeunes par hasard dans un bar à Vienne. Est-ce qu'il y a eu une scène ou alors un personnage en particulier qui vous a donné l'envie de faire un film sur eux, Patrick Chia?
Oui, je les ai rencontrés une nuit par hasard à Vienne. Je faisais des recherches pour un autre film et un ami m'avait dit « Ah, tu devrais aller dans ce bar et peut-être ça t'intéressera. » Et vous savez, c'est quand on cherche pas, bizarrement, on trouve. C'est-à-dire, quand je cherchais, je trouvais rien, et parce que je cherchais d'après des sujets, et les sujets m'intéressent pas. Et j'arrive dans ce bar, et le long du bar sont alignés tous ces garçons en veste de cuir, avec du gel dans les cheveux, en faisant des poses vraiment crâneurs comme ça. Et j'étais tout de suite fasciné, quoi. Et je m'interrogeais qui sont-ils, et ils me rappelaient des héros de cinéma. Donc des héros de cinéma de Fassbinder ou Coppola ou Werner Schroeter, c'est-à-dire tous mélangés comme ça, et j'étais très excité. Et y avait personne en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est des Roms bulgares. Et c'est vraiment un groupe, quoi. C'est un film sur un groupe. Ça rend les choses parfois plus difficiles, mais je sentais très bien, c'était sur le groupe. Donc non, c'est pas une personne en particulier, même si dans le film, il y a quelques personnages qui ressortent. Mais c'est une bande, quoi. C'est une bande de garçons qui se ressemblent beaucoup, qui, voilà. Et j'avais envie. Je savais pas ce dont j'avais envie, mais en rencontrant ce groupe, je savais que ça allait être un film sur un groupe, quoi.
Comment est-ce que vous leur en avez parlé? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Parce que ça va très loin dans leur parole, dans leur intimité. Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit à un moment donné, non, là, non, on fait pas ça, on veut pas en parler, on veut pas faire ça?
Alors, le tout a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire, on a tourné que 4 semaines, mais j'ai passé quand même une année avec eux. C'est comme avec tous les êtres humains, quoi. C'est-à-dire, on se rencontre, on crée une relation et quelque chose s'est instauré. J'ai fait ce film, je pense, en premier lieu pour passer du temps avec eux. Je crois beaucoup en ça au cinéma. C'est-à-dire que une des premières envies, c'est la caméra nous permet de passer du temps avec des gens parce qu'on peut pas leur dire, tiens, on va prendre un an un café. Donc, la caméra permet de, tiens, faisons quelque chose. Il y avait vraiment cette envie de faire un film avec eux. Et c'est pas théorique, quoi. C'était pas tellement sur eux et c'était certainement pas un sujet qui m'intéressait. Et après, bah, évidemment, il y a eu des hauts et des bas, et petit à petit, je comprenais ce que je voulais faire avec eux, et eux, ils comprenaient ce que je voulais faire avec eux. Ceux qui ne voulaient pas, il y avait jamais aucun rapport de force, quoi. C'est-à-dire, je laissais aussi venir vers le film ceux qui avaient envie. Et puis, s'est installé petit à petit cette idée de, oui, qu'on pourrait appeler fiction. En tout cas, les outils de la fiction m'ont permis de faire ce film. Outils de fiction, ça veut dire costumes, décors, lumière. C'est très, très éclairé. Et je sentais... Moi, je leur ai toujours dit... Bon, c'est des garçons qui ont à peu près 12, 18 ans, genre plus ou moins. Et donc, c'est des jeunes hommes. Et si on leur dit, on fait un film, il faut que ça ressemble à un film, quoi. Ils m'ont dit, OK, on va faire un film ensemble, mais le plateau, il peut pas ressembler à n'importe quoi, quoi. Il faut au moins un peu de lumière. Donc, on en a mis beaucoup. Et une machine à fumer et tout ça. C'était un peu théorique, mais je voulais... Dans la vie, ils mentent beaucoup, ils jouent beaucoup, ils exagèrent beaucoup. Et évidemment, moi, ça m'intéressait beaucoup, ça. Mais c'est théorique de dire à quelqu'un, oui, tu peux mentir devant la caméra. Ça, on me dit ça, même moi, je sais pas faire. Et je sentais pour qu'ils soient pas nus devant la caméra, que la lumière, les décors, les costumes étaient un moyen pour eux aussi de se jouer, de se mettre en scène, et donc de ne pas devoir donner quelque chose, voilà. Et quand on aime quelqu'un, mais on veut le protéger aussi, et je pense qu'il y avait ça.
Mais justement, là-dessus, vous répétez souvent, en effet, que vous ne vouliez pas faire un film sur eux, mais avec eux. Qu'est-ce que ça supposait en termes de protocole, mais vraiment basique? Est-ce que c'était des acteurs? Est-ce qu'ils étaient payés comme des acteurs pour faire votre film, Patrick Chéri?
Alors, l'argent étant tellement important dans leur monde et dans le film, du coup aussi, il était évident dès le départ que j'allais les payer et que... Comment dire, je gagne de l'argent sur mon film, il était normal qu'ils en gagnent aussi. Et évidemment, pendant qu'ils filment, je les empêche de travailler. Donc ça, c'était normal. Après, la question, une question éthique tout à fait normale, c'est-à-dire, c'est des garçons qui sont prêts à beaucoup de choses pour de l'argent. Et je suis pas sûr, genre, je les connais bien là maintenant, ils ne savent pas toujours ce qu'ils font pour une certaine somme d'argent. Donc, il fallait effectivement inventer une manière de les payer, mais sans qu'ils soient forcés de tourner. Donc, on a trouvé... ça, c'est un peu un autre sujet, mais c'est des garçons qui n'ont pas de lieu à eux, en fait. Ils n'ont pas un appart où ils habitent, ils squattent comme ça, à droite à gauche, ils ont le bar où ils travaillent, mais si on veut arriver à l'être humain, il faut évidemment s'éloigner du travail et donc de la fonction. Et à Vienne, il fait assez froid l'hiver, donc il n'est pas question qu'on traîne trop longtemps dans la rue. Donc, on a trouvé cette idée de créer des lieux qu'on appelait des espaces de jeu, Et on a tourné 4 semaines. Chaque semaine, c'était un autre. C'était comme des studios dans Vienne. Et ils venaient là. On chauffait, il y avait à boire, à manger. Et c'était comme des salons dans la ville. Et ils se sont très vite appropriés ces lieux. Et donc, je les payais une fois qu'ils étaient sur le plateau de tournage, quoi. C'est-à-dire, ils étaient payés à l'heure. J'étais excessivement strict, ce qui les faisait beaucoup rire. Parce que je pense que personne n'était jamais aussi strict. Je négociais pas, par exemple. Et ils étaient payés pour être présents sur le plateau. C'est-à-dire, celui qui ne buvait qu'une bière sans être filmé était payé pareil. Ce qui créait quelque chose de très beau. C'est-à-dire, ceux qui voulaient être filmés, il y avait une énergie créative. C'est-à-dire, c'était quelque chose, quoi.
La quasi-totalité du temps, ces jeunes-là, ils parlent bulgare, parce qu'ils parlent très mal allemand. Est-ce que ça veut dire que vous les filmiez sans les comprendre? J'imagine que oui. Et surtout, qu'est-ce que ça a changé dans votre appréhension de ce que vous étiez en train de faire au jour le jour, Patrick Chia?
Alors, effectivement, c'est des garçons, ils parlent allemand très mal, et entre nous, on parle allemand. Genre, on se comprend comme ça. Mais je comprenais tout de suite, on n'allait pas faire un film en allemand. C'est-à-dire, ils allaient être prisonniers de quelques mots, quoi. Et c'est peut-être plus personnel, mais je sais pas, quand on est jeune réalisateur, ce que je suis plus tout à fait, au début, la maîtrise est très importante. Et on croit que quand on maîtrise et qu'on montre qu'on sait, que c'est bien. Et à vrai dire, tout mon travail, c'est de perdre ça. Et ici, c'était le plus beau cadeau que le réel pouvait me faire. C'est-à-dire, j'ai filmé des gens que je comprenais pas. Et évidemment, j'ai passé un an avec eux, donc je m'en doutais de quoi ils allaient parler et comment ils allaient en parler. Mais pendant les prises, qui étaient des sortes d'impro, où eux, on définissait un peu les thèmes ensemble, mais bon, il y avait pas de directive, quoi. Ils jouaient, donc on faisait des prises de 40 minutes, une heure. Et à vrai dire, j'étais spectateur. Et soyons pas naïfs, celui qui a la caméra et celui qui fait le montage, évidemment, il sait quelque chose que ceux qui sont filmés ne savent pas. Mais en même temps, je m'étais mis dans l'état où eux, ils savaient quelque chose que moi, je savais pas. C'est-à-dire, on a passé des nuits entières à tourner, et quand je me couchais à 5h du matin, je m'endormais et je me disais, j'ai aucune idée ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je dois dire, c'était un des plus beaux sentiments, d'être spectateur, en fait, de la mise en scène.
En voyant votre film, Patrick Chia, j'ai pensé notamment à un documentaire français qui s'appelle Prostitution. C'est un documentaire assez mythique du milieu des années 70, où il y a des passages qui sont mis en scène. C'est-à-dire que c'est beaucoup de témoignages face caméra de prostituées. Et puis, il y a des passages mis en scène de reconstitution de scènes de prostitution très, très, très concrètes avec des clients dans des chambres d'hôtel. Faire un film sur des prostituées, c'est assumer une posture assez compliquée de voyeurisme, à la fois pour vous et puis également pour les spectateurs qui attendent des choses, parce que c'est un film maintenant qui crée des attentes. Comment on fait avec ça? Comment vous avez fait avec ça, Patrick Chia?
Je sais pas, c'est un peu plus compliqué, parce que je crois c'est des questions, évidemment, je me le suis posé, mais mon rapport avec eux était toujours d'abord celui du plaisir du cinéma. C'est-à-dire, j'ai jamais pensé faire un film sur la prostitution. C'était d'abord, tiens, la vie m'a fait rencontrer des gens absolument exceptionnels, que je trouve des acteurs incroyables. J'ai eu la chance de pouvoir les filmer, et voilà ce que je partage avec le public. Et donc, il y avait plein de questions qui se posaient pas. Il était évident qu'il y aurait pas de scène de sexe, par exemple, et que je trouve beaucoup plus excitant comment les gens en parlent. On sait tous ce que c'est la sexualité. Et par contre, comment ils en parlent, ça, c'est vraiment surprenant. Je connais malheureusement pas le film dont vous parlez, avec les garçons avec qui j'ai fait ce film, rien n'est clair, quoi. C'est-à-dire, eux, ils jouent des rôles. Ils gagnent de l'argent avec une sexualité qui n'est pas vraiment la leur, mais qu'est-ce que leur sexualité est un grand mystère, et le film ne répond pas à ça, et il n'y a pas de réponse à ça, et on fait pas un film pour répondre à des questions d'identité, un mot que vraiment j'aime pas du tout. Et donc, comment dire, ils jouent avec la vie, ils jouent des rôles en permanence, et il y a aussi quelque chose, par exemple, les clichés gays, ils les ont très bien intégrés, c'est-à-dire, ils savent très bien qu'être un mauvais garçon à jouer avec un couteau, que ça peut exciter dans une situation, et tout ça. Donc, tout est très flou. Donc, je pense, je voulais surtout montrer ça, quoi. Donc, je suis resté à ce degré de, tiens, les clés sont pas claires. Et ça, ils ont très bien compris. C'est-à-dire, au fond, ils jouent comme ils jouent dans la vie, quoi. Et comme j'ai dit, ne pas les mettre nus devant la caméra. Donc, la sexualité. Et même je sais pas si c'est tout à fait votre question, mais à un moment, je me suis dit, une scène de sexe, mais je saurais même pas quoi filmer, quoi, dans ce cas-là. Devoir me demander où est-ce que je mets la caméra, je peux même pas imaginer cette question, quoi.
Alors, ces hommes, ils sont d'origine bulgare, et la Bulgarie, comme d'ailleurs les femmes, sont une sorte de hors-champ permanent, c'est-à-dire que leurs femmes restées au pays, elles existent, mais on les entend un tout petit peu au téléphone quand ils leur téléphonent. Il y a quelques photos sur les téléphones aussi, les téléphones, on va y revenir, c'est quelque chose de très important. Il y a un bus qui part vers la Bulgarie, il y a un bordel qu'on ne voit jamais, donc finalement les femmes qui fréquentent également à Vienne, on ne les voit pas. Comment s'est imposée cette idée qu'il ne fallait surtout pas qu'on voit ça, Patrick Chia?
Alors ça aussi, ça s'est imposé tout seul. Hein. Désolé pour cette interview. J'ai fait des choses, hein, mais j'ai pas fait grand chose. Comment dire, très étonnant aussi, ils vivent dans un monde sans femmes où on ne parle que des femmes. Mais les femmes sont une sorte de mirage mystérieux qui... Voilà. Moi, j'ai passé un an avec eux, donc ils parlent souvent de prostituées hongroises à Vienne. Donc je leur ai dit, bon, ben, amenez-moi, allons-y, allons prendre un verre là-bas, montrez-moi. Et donc on y allait avec toute la bande, comme ça, ils ont dit, ok, aujourd'hui on te présente les prostituées hongroises. Et voilà. Et une fois qu'on s'approchait, ils ont dit, non, mais en fait, c'est pas la bonne soirée, non, mais en fait, on n'a pas assez d'argent, non, mais peut-être elles sont pas là aujourd'hui et tout ça. Donc au fond, les femmes se dérobaient en permanence. Et donc ils en parlent beaucoup, ils en parlent d'ailleurs assez mal des femmes, c'est d'ailleurs une question assez intéressante dans le film, parce que sans doute ils parlent assez mal des femmes pour ne pas devoir parler mal d'eux-mêmes, c'est-à-dire comment être un homme, c'est parler mal de la femme, peut-être, non, c'est assez, genre, c'est à la fois terrible et c'est très émouvant, je trouve, comment ils parlent des femmes. Donc il n'y avait certainement pas l'idée, ah, je vais faire un film, j'ai ma petite idée de réalisateur, tiens, on va pas filmer de femmes et on va pas filmer la Bulgarie. Ils détestent rentrer en Bulgarie. Quand je leur ai dit, est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de passer un temps en Bulgarie? Ils m'ont dit, mais non, jamais. C'est chiant en Bulgarie. Qu'est-ce que tu vas filmer là-bas? Et on a que des chevaux et on n'a pas Internet. On veut être beau dans ton film. Donc, ils jouent au beau à Vienne, où il y a les beaux décors et tout brille. Donc, comment dire, dans le film, moi, j'ai tendance à dire, ce qui veut pas dire grand chose, mais que tout est faux et tout est vrai, quoi. Genre, c'est pas un film sur la volonté. J'ai lâché toute volonté. J'ai essayé de suivre et je peux vous le dire d'un point de vue professionnel, ça rend très heureux.
Il y a un bateau qui passe. Il y a quelque chose qui est très important pour les jeunes que vous filmez, c'est la musique et du coup la danse. Le film s'achève sur une grande séquence de boîte de nuit. On écoute un extrait. Evet, ben Sarı Okka. Bu parça dünyadaki bütün romanlara gelsin. Je sais, Patrick Chia, que par ailleurs, vous filmez des danseurs. C'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous avez mis quelque chose de cette patte-là dans ce type de scène, cette scène de boîte de nuit?
Alors, j'adore la danse. Et je pense que je fais le plus... Ce que j'aime le plus dans la vie, c'est danser avec des gens. C'est-à-dire, au lieu de parler, on danse, quoi. Et ce film, sans doute, intimement, je l'ai fait pour cette scène. C'est-à-dire, c'est 10 minutes finales. C'est une boîte de nuit absolument dingue à Vienne qui s'appelle La Liberté Viennoise, en allemand, quoi. Wiener Freiheit. Et c'est une boîte qui, tous les vendredis, est la soirée bulgare où eux, ils sont. Il n'y a pas de femmes non plus. Bizarrement, il n'y a que des travestis et eux. Et je pense, d'abord je les ai rencontrés eux, mais bon, cette boîte de nuit, elle est absolument dingue. Mais j'y ai peut-être mis l'énergie, c'est-à-dire ils ont passé du temps avec moi, donc ils ont vu ce que la danse me faisait. C'est un film où ça parle beaucoup. Moi, je sais que ça parle beaucoup, et j'aime beaucoup les films où ça parle beaucoup. Et j'aime beaucoup le cinéma français pour ça. En Autriche, j'y parle moins, et j'aime beaucoup que ça parle beaucoup. Et au fond, le film est très émouvant. Il m'émeut, je crois, parce que pour tout ce qui n'est pas dit. Parce qu'il parle, il parle, il parle, mais bon, il y a évidemment des choses qui ne sont pas dites. Et tout à coup, on arrive à 10 minutes où il n'y a plus de paroles. Il n'y a plus que les corps. Bah, les corps, ils disent autre chose encore, où il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Voilà. Donc, dans cette boîte, se dit quelque chose par le corps que je pourrais pas nommer, mais c'est quand même pour ça qu'on fait du cinéma, c'est pour nommer des choses, mais pour montrer ce qu'on peut pas nommer, quoi. Donc les boîtes de nuit, c'est génial, quoi. Je suis un grand fan de boîtes de nuit.
Vous avez aussi travaillé dans la mode avant de faire du cinéma. Est-ce que aussi vous avez là gardé quelque chose de ce parcours-là dans votre manière de filmer les corps? Est-ce que vous y pensez quand vous filmez des gens qui dansent ou des gens qui marchent, Patrick Chia?
Pas très consciemment, mais je sens bien ce que j'ai gardé de la mode. C'est il y a longtemps quand même. C'est l'émotion de la forme, quoi. Et Et par exemple, dans la mode, à vrai dire, ce que je préférais, c'était les défilés de mode. Genre, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus, je crois, au final. Parce que c'était un des spectacles les plus abstraits, les plus émouvants. C'est-à-dire, il y a quand même plus de dramaturgie aucune. Il y a des gens qui marchent. En général, j'aime beaucoup filmer les gens qui marchent, mais eux, là, les garçons, ils aiment pas trop marcher, donc j'ai vite abandonné.
Pourquoi ils aiment pas trop marcher?
Ah, ils traînent, quoi. C'est-à-dire, ils ont un rythme qui est très, très beau. C'est comment ils dansent aussi. J'aime beaucoup observer comment, à quelle vitesse marchent les gens, et j'aime beaucoup les gens qui marchent vite, en général, et eux, ils traînent, quoi. Et je sais pas, en français, on dit comme ça, on traînait des savates, quoi. Alors, eux, c'est vraiment ça. Donc, à un moment, j'ai dit, vous voulez pas, parce que je vous ai vu marcher quand même. Alors, on a fait dans trois rues des plans. C'était improbable. Genre, j'ai eu des fous rires, et eux aussi, ils ont dit, non, mais on marche. Ça traînait comme ça. Très beau, mais bon, c'était, donc, j'allais pas les faire marcher trop. Et dans la boîte, il y a ce truc, d'ailleurs. Comment, ils dansent une sorte de ralenti. La musique, l'extrait que vous venez de passer, elle est dingue, cette musique, quand même. C'est-à-dire, eux, c'est des Roms bulgares plutôt côté mer, donc près de la Turquie. Et on sent bien la Turquie dans leur musique. Et donc, il y a ce mélange, il y a l'Orient qui arrive dans l'Europe centrale, quoi. Et ça donne un rythme totalement dingue, quoi. C'est-à-dire, entre transe et ralenti. Donc, vraiment, vraiment très étrange, quoi. Très beau.
Vous êtes autrichien, Patrick Schia, vous avez quitté l'Autriche, certes, depuis des années, mais pour autant, vous y revenez pour faire des films systématiquement. Est-ce que vous avez transformé Vienne en vaste studio? Qu'est-ce que vous pouvez faire là-bas que vous ne pouvez pas faire à Paris ou à Bruxelles, où vous avez vécu aussi?
Ouais, alors ça, c'est plus compliqué, j'ai pas la réponse, mais ça me vient évidemment assez naturellement. J'ai filmé dans les montagnes, j'ai filmé à Vienne. Effectivement, vous venez de dire un truc, ça me fait rire parce que j'y pense pas, mais effectivement, je filme l'Autriche en général comme un studio. C'est un peu, ça paraît toujours un peu toc, mon Autriche. Mais, alors c'est surtout pas pour dire quelque chose sur l'Autriche, j'ai pas grand chose à dire sur l'Autriche, mais on a sans doute un rapport très particulier au paysage de notre enfance. Le cinéma, c'est une question de géographie et d'espace, et c'est peut-être un espace que pas intellectuellement, mais que notre corps comprend d'une manière plus forte ou plus instinctive. Et je sais pas, ça se traduit par des choses très simples. Si on me demandait de tourner à Paris, placer une caméra, ça me prend beaucoup de temps. À Vienne, je sais tout de suite où je la mets. Je sais pas, c'est être à l'aise avec un espace pour pouvoir le détruire, le reconstruire, le fantasmer, l'investir. Et puis l'Autriche, même si l'histoire est lourde et ils sont un peu lourds, c'est moins filmé que la France, donc il y a aussi une neutralité. Je sais pas, c'est un peu étrange, quoi. Les signes autrichiens m'excitent plus, je sais pas.
C'est aussi un film sur l'exil, et ça, c'est un thème qui obsède une grande partie de vos films. Déjà dans Boys Like Us ou dans Home, il y avait une sorte de personnage comme ça un peu perdu. Qu'est-ce qu'il y a de profondément cinématographique pour vous dans le déplacement, et même au-delà du déplacement, dans l'absence?
Alors, comme j'ai dit, j'aime beaucoup filmer la marche. Alors, je pense, si je décide avant un film, ça parlera un peu de l'exil, mais ça permet souvent de marcher un peu, puisque si c'est l'exil, c'est des gens qui n'ont pas de maison. Il y a un truc, dans le cinéma français, il y a beaucoup de maisons, et moi, je suis très, très peu sensible à la thématique de la maison. Je sais pas, dans le cinéma français, c'est beaucoup l'héritage de la maison, qu'est-ce qu'on fait de la maison, quand est-ce qu'on achète une maison, et ça m'est totalement étranger, donc... Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup les gens qui marchent dans des lieux qui ne leur appartiennent pas. J'aime beaucoup filmer ça. Donc, du coup, j'ai filmé parfois en forêt. C'est assez, voilà. Et moi, je suis assez fanatique de l'orientation. C'est une de mes passions. J'ai une très très bonne orientation. Et en même temps, évidemment, quand on est très très bien, quand on s'oriente très très bien, on est très ému par les gens qui s'orientent pas. L'exil, c'est souvent ça. C'est-à-dire comment arpenter un lieu et trouver le chemin. Et ça pose des questions de cinéma assez excitantes, je trouve. Voilà.
Un grand merci à vous, Patrick Schia. Votre film s'appelle Brothers of the Night. Une sortie en France est prévue, je crois, début 2017. La grande table d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci au FID de nous avoir accueillis et puis au MUCEM où nous étions installés et qui présente en ce moment plusieurs expositions. C'est le dernier jour de l'exposition Jean Genet, L'échappée belle, donc profitez-en. Également une exposition Picasso, un génie sans piédestal, jusqu'au 29 août. Quant à nous, on se retrouve demain en direct de notre studio parisien avec une table ronde consacrée au mélodrame français. Et puis, le portrait du poète Christian Prigent. Il y aura une session musicale au milieu, ce sera Juliette Armanet. Et la Grande Table d'été est une émission préparée par Aïssatou Ndoye, Anne-Catherine Lochard, Anna Baron, Lila Bozès, Lucie Depertuis et Boris Pinault qui m'a suivi pendant toutes ces pérégrinations et je l'en remercie. À la réalisation Peyré Legras, dernier jour pour Peyré, bonnes vacances à lui, équipe technique, Patrice Klein, Stéphane Poitvin, chargé de production, Roland Dandalex. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur le site de France Culture, vous pouvez la réécouter et la télécharger et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux.